célébrer cette fête avec vous, même si c'est une fête par anticipation, parce que le jour de Noël, c'est la semaine prochaine. Mais ça me fait plaisir, en tout cas, et j'espère que vous vous sentez bien avec nous. Ce que je vais rapporter ce matin n'a rien d'original. La semaine dernière, en allant chercher Nicolas à l'école de Thouin, j'ai pu admirer, en traversant cette magnifique petite ville, toutes les décorations, les jeux de lumière, les décorations qu'il y a derrière les vitrines de certains magasins. C'est somptueux, avec ces décors enneigés, ces boules, ces guirlandes, ces sapins qui, j'allais dire qu'ils poussent un peu partout, mais on les a généralement coupés. Et puis, en remontant la rue, j'ai même vu, en remontant ma rue, j'ai même vu un Père Noël qui grimpait, qui escaladait la façade d'une maison pour essayer de rejoindre une cheminée. Mais il était immobile, il ne bougeait plus. On aime Noël pour son côté festif, pour la magie de Noël, parce que Noël est féerique. On aime Noël parce que c'est l'occasion de se réunir en famille, d'échanger des cadeaux, de recevoir, d'offrir des cadeaux. On aime Noël parce que c'est l'occasion d'aller visiter certains marchés de Noël. Et ça fait toujours plaisir de voir cette ambiance qui est là et qui nous fait du bien. On aime Noël parce qu'on aime profiter aussi des spécialités que l'on nous offre à Noël, comme le boudin de Noël, les cougnous, etc., la dinde de Noël. Tout cela, ce sont des choses qui nous réjouissent. Et ce sont de bonnes choses. Cependant, chaque année, des milliards de personnes célèbrent Noël sans en connaître réellement la signification spirituelle. Il semble que l'aspect festif, l'aspect commercial de Noël est supplanté et pris la place et inhiber le vrai sens de Noël. Pourtant, comme les enfants l'ont judicieusement rappelé à travers leur scénette, et je les en félicite comme on a pu tous les apprécier, ce n'est pas Monsieur Sapin qui est le roi de Noël. Ce n'est pas non plus le Père Noël qui est le roi de Noël, même s'il est très sympathique. Qui est le roi de Noël ? Vous savez ce que ça veut dire, Noël, n'est-ce pas? Ça veut dire, ça signifie naissance. Noël veut dire naissance, tout simplement. C'est la naissance du Fils de Dieu. Jésus, cadeau de Dieu pour l'humanité. Noël, cadeau de Dieu pour le monde. Et j'aimerais rappeler avec vous un verset que l'on tire de l'évangile de Luc au chapitre 2, verset 11, un verset qui servira de base pour notre réflexion de ce matin. Et peut-être que pour ceux qui ont leur Bible devant eux, ils peuvent l'ouvrir dans l'évangile de Luc au chapitre 2, qui nous dit ceci, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Alors, nous sommes quelques années avant l'an zéro de notre ère. L'Empire romain est dans son pleine expansion, sa pleine expansion. Il est à son apogée et l'empereur de l'époque, c'est marqué dans le texte biblique, César Auguste ordonne à tous les habitants des différentes provinces de son royaume d'aller s'inscrire dans la ville ou le lieu où ils sont nés, dans la ville ou la localité d'origine. Pourquoi ? Parce qu'il veut établir un recensement. Il veut savoir combien de personnes peuplent son empire. Alors, pour Joseph et Marie, ils devront parcourir une certaine distance, puisqu'ils habitent à Nazareth, une ville qui se trouve dans le nord de la Palestine à l'époque de Jésus, dans la province de Galilée, et ils vont devoir parcourir plusieurs jours de marche ou à Dodane, ça le texte ne le précise pas, pour rejoindre leur localité, leur lieu d'origine qui est Bethléem. Appelée aussi la ville de David, comme dans le texte, comme dans le verset que nous avons lu initialement. Aujourd'hui, dans la ville de David, c'est Bethléem. Ils sont nés là et donc doivent retourner s'inscrire dans cette ville de Bethléem. Alors, après un long voyage fatigant, Joseph et Marie, qui est enceinte, arrivent à Bethléem et ils se mettent en quête d'un logis. Malheureusement, il y a une influence telle dans la ville de Bethléem en cette période, à cause du recensement, que les hôtelleries, les auberges affichent complet. Il n'y a plus de place. Il nous est arrivé, Ingrid et moi, il y a quelques années, de partir en vacances sans avoir réservé une place d'hôtel. Et nous avons dû, pendant des heures, tourner dans, là où nous étions pour tenter de chercher un hôtel. Finalement, on en a trouvé, mais on a passé une des plus mauvaises nuits de notre vie. Si vous voulez plus d'informations, vous n'avez qu'à demander à Ingrid après. Toujours est-il que finalement, eh bien, Joseph et Marie vont pouvoir trouver un lieu où s'abriter, dans une étable en l'occurrence. Un lieu privilégié pour les animaux. Pas de place pour accueillir le Fils de Dieu. Dans une étable. Et c'est là, la nuit de Noël, que Marie va donner naissance à son premier-né, Jésus. Et les premiers à être informés de cette bonne nouvelle, eh bien, ça va être des bergers. Des bergers, voilà, mes feuilles qui s'envolent. Tiens. Des bergers qui, eux aussi, sont fatigués parce qu'ils ont fait paître leur troupeau de moutons. Ils ont marché pendant des heures sur les sentiers escarpés des collines de Judée. Et ils se reposent de façon tout à fait légitime, là, paisiblement, dans l'obscurité de la nuit, sous la voûte étoilée. Lorsque, soudain, la lumière glorieuse de Dieu les entoure. Et en outre, un ange leur apparaît. Ils sont effrayés. Ils sont tétanisés. Ils ont une peur bleue. Je ne sais pas, essayons de nous mettre à leur place. Imaginons que nous soyons dans notre chambre, couchés sur notre lit, dans l'obscurité de la nuit, et que soudain, une lumière resplendissante jaillisse dont on ne sait où, sans que personne n'ait appuyé sur l'interrupteur. Et en outre, on voit l'apparition d'un être céleste devant nous là, même bien intentionné, et pourvu des meilleures intentions à notre égard, je suis certain que nous ne serions pas à l'aise non plus. En tout cas, les bergers n'étaient pas à l'aise. Ils ont peur et l'ange s'approche d'eux pour leur dire « Mais n'ayez pas peur, rassurez-vous, n'ayez crainte, car je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle qui sera le sujet d'une grande joie pour tout le peuple. » Et c'est dans ce contexte-là que s'affiche le verset que nous avons lu en introduction. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Alors, avec la naissance de Jésus, il est peut-être légitime que nous nous posions cette question, mais pourquoi la nativité? Pourquoi est-ce que Jésus est venu sur cette terre? Alors, j'ai trouvé trois éléments de réponse à cette question. Et le premier élément de réponse est que si Jésus est venu, si Jésus est né, c'est pour nous révéler, d'une part, le Père. C'est pour nous faire connaître le Père. Dieu est esprit. On ne peut pas le voir. Il habite, il règne dans une sphère inaccessible. Il est tout autre, il est transcendant. On ne peut pas le connaître. même s'il est vrai, il s'est révélé partiellement à travers la création, les merveilles de sa nature, nous parle de la grandeur, de la puissance, de la beauté d'un Dieu tout autre. Dieu s'est également révélé à travers la bouche de ses prophètes sous l'ancienne alliance. Mais ces révélations étaient incomplètes. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a choisi de se révéler à travers le Fils, de se révéler à travers Jésus. Et c'est l'épître de l'auteur aux Hébreux qui nous relate ceci en Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de nombreuses manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, en ces temps qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Dieu s'est révélé à travers Jésus-Christ pour se faire connaître. Et c'est l'épître de Paul aux Colossiens au chapitre 1er qui dit « Jésus, c'est l'image du Dieu invisible. C'est lui qui a fait connaître Dieu. C'est lui qui s'est fait chair, comme notre cher Mehdi nous l'a rappelé, et comme les enfants nous l'ont rappelé aussi à travers leurs ténèbres. Et puis, il y a ce verset que Jésus prononce lui-même dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 18. « Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. » C'est donc par Jésus, à travers Jésus, que nous pouvons connaître Dieu, que nous pouvons connaître la personne de Dieu, que nous pouvons connaître les qualificatifs de Dieu, les attributs de Dieu, la nature de Dieu en quelque sorte, sa grandeur, sa puissance, sa sainteté, sa compassion. Jésus a manifesté de son vivant sur la terre la puissance de Dieu lorsqu'il a ordonné aux éléments naturels notamment de se calmer sur la tempête alors qu'il se trouvait sur le lac de Galilée. Jésus a montré la compassion de Dieu lorsqu'il a guéri des malades, des muets, des aveugles, des paralytiques, des sourds, etc. Jésus aussi a manifesté la sainteté de Dieu parce qu'en lui, il n'y avait pas l'ombre d'une faute. Jésus est le seul être parfait. Le deuxième élément de réponse, pourquoi est-ce que Dieu, Jésus, est venu sur la terre ? Pourquoi la nativité ? Le deuxième élément de réponse à cette question, eh bien, c'est que Jésus est venu sur la terre pour être un modèle pour l'humanité. Jésus est venu sur la terre pour nous laisser un exemple à suivre, un modèle en parole. Jésus a été un modèle en action, un modèle de paix, un modèle de bonté, un modèle d'altruisme, un modèle de service. Et souvenons-nous, lorsque Jésus était dans la chambre haute durant cette semaine sainte, peu de temps, la veille, avant son arrestation et sa crucifixion, il a lavé les pieds de ses disciples et puis il s'est servi de cet exemple, de cet épisode pour tirer les conclusions. Cette conclusion en disant à ses disciples, je vous ai laissé un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Jésus est venu pour nous laisser un exemple. Jésus est venu sur cette terre pour nous laisser un modèle à suivre. Même tous les gens, toutes les personnes, même les non-croyants, reconnaissent que Jésus, de par son mode de vie, a marqué l'humanité. De par sa vie, de par son mode de vie, comme je viens de le préciser. Cependant, malgré toute notre bonne volonté, malgré toute la bonne volonté de la nature humaine, il nous est impossible de reproduire parfaitement, pleinement, la vie de Christ à travers nous. Il nous est impossible de reproduire à 100% la vie de Christ dans notre vie. C'est pas grave, c'est la caméra qui vient de tomber. Pourtant, c'est ce que Dieu veut pour nous. C'est ce que Dieu exige de nous. c'est que nous puissions suivre à la lettre l'exemple de Jésus-Christ. Mais on n'y arrive pas. On est trop court. Par conséquent, on ne peut pas répondre aux exigences de Dieu. On ne peut pas répondre aux exigences du Dieu parfait, du Dieu trois fois saint. Pourquoi ? Parce que notre nature, eh bien, elle est incompatible avec la nature de Dieu. Il y a incompatibilité entre la nature de Dieu et notre propre nature à cause du péché. Comme il y a incompatibilité entre le jour et la nuit. Comme il y a une incompatibilité entre l'eau et le feu. Incompatibilité. Et tout cela nous amène au troisième élément de réponse à notre question. Pourquoi Jésus est-il venu sur la terre? Pourquoi la nativité? Troisième et dernier élément de réponse, Jésus est venu sur la terre parce que nous avions besoin d'un sauveur. Comme celui qui tombe à l'eau et qui ne sait pas nager a besoin de secours, a besoin d'être sauvé, a besoin d'un sauveur. Nous avions besoin d'un sauveur. Dieu dans sa justice, Dieu est juste, c'est une de ses qualités, de ses caractéristiques. Dieu est juste et dans sa justice, à cause du mal, à cause travers, à cause de nos imperfections, à cause de nos défauts, à cause de nos immoralités, de notre immoralité, Dieu devait nous condamner. Si un coupable se présente devant le juge, il va être déclaré comme tel et il devra subir une condamnation. C'est logique. Et Dieu, dans sa justice, devait nous condamner. Mais la Bible, la parole de Dieu, affirme avec force que Dieu, il nous aime. Dieu, il nous aime tellement, il nous a tant aimés que la condamnation que nous méritions, il l'a transférée sur la personne de Jésus-Christ. Vous l'avez lu sur les petites pinces que vous avez reçues. Je ne sais pas si vous avez appuyé sur la pince, mais Jésus nous aime tellement. Dieu nous aime tellement que la punition, la condamnation que nous méritions, il l'a transférée sur la personne de son Fils, Jésus, qui, à la mort sur la croix, lorsqu'il est mort, lorsqu'il a été cloué sur la croix, eh bien, a subi notre condamnation. Il a pris notre culpabilité sur lui. Il a pris sur lui notre propre culpabilité. Finalement, sa mort et sa résurrection sont les finalités de la nativité. Il est venu dans cet objectif unique de nous sauver, de nous pardonner, de nous offrir une vie nouvelle et éternelle. Voilà la finalité de la nativité. Aujourd'hui, comme l'ont dit les anges, comme l'ont rappelé les anges aux bergers, aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Noël, cadeau de Dieu pour l'humanité. Jésus, cadeau de Dieu pour le monde perdu. Jésus, cadeau de Dieu pour vous et moi. Qu'allons-nous faire de ce cadeau? Allons-nous le rejeter? Allons-nous le mépriser? Allons-nous le mettre de côté? Ou bien allons-nous l'accepter avec joie et reconnaissance? Jésus, cadeau de Dieu pour l'humanité. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Est-ce que nous avons saisi ce cadeau merveilleux que Dieu nous offre en la personne de Jésus-Christ? Que la paix de Noël soit répandue dans chacune de nos vies, dans chacun de nos cœurs, et que nous puissions continuer à nous réjouir dans ces merveilleuses perspectives que Jésus est venu sur la terre pour nous sauver et pour nous assurer un avenir éternel serein.